C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Ah, bonsoir.
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 C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Bonsoir, nous sommes le mercredi 1er avril 2020 et c'est l'heure du Canu Info.
Du Canu Info enregistré, ma foi, dans plusieurs maisons et appartements simultanément et puis monté ensemble dans un seul de ces appartements, envoyé à la radio. Enfin bon, vous savez ce que c'est, Radio Canu par les temps qui courent. Avec ce soir... ce soir, après peut-être une petite brève, ça sera honneur à Radio Canu, comme dans le pays entier, honneur au corps médical, puisque nous aurons d'abord l'interview d'une infirmière qui bosse au Vinatier et qui va nous raconter comment ça se passe un hôpital psychiatrique en temps de confinement et de coronavirus. Et puis après ça, on aura, comme mercredi dernier, la rubrique de la Toubib de Canu. Et puis après quoi? Eh ben, le gouvernement prend des mesures de merde, il faut bien dire, contre les violences familiales. Les services publics sont en grève à partir d'aujourd'hui à l'appel de la CGT. Après ça, ça sera l'heure de notre rubrique « Il faut que ça se sache » avec un point sur la situation dans les îles grecques et dans le camp de Moria à Lesbos, avec l'histoire de trois exilés accusés de piraterie à Malte et les ONG qui réclament l'abandon des poursuites. Et puis, cynisme ordinaire, légalisation, pour le coup, de la main-d'œuvre sans papier. Et puis, quand on aura fait ça, eh ben écoutez, ça sera le moment de s'intéresser un petit peu à ce que signifie l'état de droit en période de panique sanitaire, avec, entre autres, une petite chronique qu'on a empruntée à Radio Dragon. Voilà, et ben, bonne écoute.
Canu Info.
Face au mépris du gouvernement, à l'appel de l'intersyndicale du Rhône, CFDT comprise, de l'ensemble des partis de gauche, du Black Bloc et du mouvement féministe MeToo, rassemblement ce soir à 20h devant l'hôtel de ville de Lyon pour huer, je dis bien huer le président. Nous sommes unis et solidaires pour lutter contre la précarité et dire non à la casse de l'hôpital public. Pour réclamer le retrait définitif de la réforme des retraites et pour castrer chaque homme qui osera lever la main sur sa femme ou ses enfants. Pour la fin du capitalisme et du patriarcat, pour une révolution sociale et autonome. Munissez-vous de vos plus beaux poissons d'avril. À la place de chaque masque chirurgical, un poisson en papier coloré. Rendez-vous ce soir à 20h pour huer Macron devant l'hôtel de ville pour un bon gros poisson d'avril.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
La lacrymo dans les yeux, les larmes sur les joues qui coulent. chaque jour nous pousse un peu plus vers la fin. Quand je mets ma blouse pour vous tendre la main, même les soirs de drame, il faut trouver la force qu'il faut pour relever la tête et revenir demain.
Salut Adeline, tu es de la CGT Vinatier et tu travailles dans la partie des urgences. Tu peux nous raconter un peu quelle est la situation au Vinatier en ce moment ?
La direction a pris l'option de consacrer 2 unités complètement à la prise en charge des patients Covid et ayant une maladie psychiatrique. Donc on a une unité qui prend en charge les patients, on va dire, en début de maladie, puis une unité qui est faite pour les patients qui ont besoin de plus de soins somatiques, comme l'oxygène. On a 3 services qui ont fermé dans le but de pouvoir libérer du personnel et mettre du personnel en réserve pour quand le pic sera là et qu'on aura des arrêts au niveau du personnel. Et puis aussi pouvoir sortir des patients en fait de l'hôpital, hein, dans le but d'avoir moins de patients possible sur l'hôpital et moins de patients confinés. Donc, ce qui est un petit peu aussi compliqué pour nous parce que c'est des patients qui sont sortis qui n'étaient pas forcément stabilisés. Donc, on attend un peu le retour qui devrait se faire dans les semaines à venir. En fait. La peur qu'on a, c'est qu'on va avoir et à la fois la vague, on va dire, épidémique comme les autres hôpitaux. Et puis, dans un second temps, on risque d'avoir la vague de tous les patients qui ont été sortis trop tôt de l'hôpital, qui ont arrêté leur traitement parce qu'ils n'avaient pas envie de sortir de chez eux ou pas aller voir leur médecin, enfin, des choses comme ça. Donc, nous, ça risque vraiment de se passer en 2 temps. En tout cas, c'est ce qu'on imagine pour le moment.
Au niveau des moyens, vous avez ce qu'il vous faut, vous avez le matériel nécessaire pour vous protéger, pour les gestes barrières, tout ça.
Alors les gestes barrières avec nos patients, c'est un peu compliqué. Parce que c'est les patients en psychiatrie, ont des fois un peu du mal à comprendre des gestes qui peuvent être simples pour le reste des gens. Donc on fait beaucoup aussi d'éducation, on va dire, thérapeutique là-dessus. Et puis au niveau du personnel, le matériel, je pense qu'on est comme tout le monde. On manque de masques, on manque de surblouses. Les surblouses sont réservées essentiellement aux patients du coup isolés, donc le reste du temps on n'en a pas. Les masques, c'est compliqué aussi. On avait une réserve de masques périmés sur l'hôpital, donc qui servait jusqu'à présent. Là, la semaine dernière, on a une dotation qui est arrivée via l'ARS, donc comme tous les autres hôpitaux de Lyon, mais voilà, ça reste très insuffisant, donc c'est au compte-goutte et vraiment. Quand on peut en avoir. Alors, il y a les services où on accueille les patients Covid, où il y a des masques un peu plus, mais dans les autres services, c'est vraiment au compte-goutte. C'est national, hein. Donc, notre direction essaye de faire son maximum pour en récupérer un petit peu de partout, mais on est comme les autres. Et en plus de ça, en psychiatrie, on n'est pas prioritaire, hein. Donc, il y a aussi cette notion-là qui se rajoute.
On entend beaucoup que la situation était déjà bien dégradée dans l'hôpital public classique, on va dire, ou je sais pas comment l'appeler. Mais et vous, c'était quoi un peu la situation au niveau de vos moyens et de vos effectifs?
On était un peu sur les économies au même niveau que les autres et voire un peu plus. Ça fait de toute façon 15 ans hein, qu'on dénonce la fermeture des lits, le virage ambulatoire, la destruction de l'hôpital public.
Est-ce que tu peux juste décrire ce que c'est que le virage ambulatoire ?
Alors le virage ambulatoire, c'est de fermer les lits dans les unités d'hospitalisation. Dans l'idée, c'était permettre de pouvoir développer tout ce qui était prise en charge ambulatoire, donc les hôpitaux de jour, les centres médico-psychologiques, les choses comme ça. Sauf que ça s'est pas fait réellement comme ça. En fait, on a fermé des lits d'hospitalisation et à côté de ça, on a continué à fermer des structures à l'extérieur de l'hôpital, à faire des regroupements. Et du coup, en fait, on a perdu sur les 2 tableaux. On a fait des économies sur les 2. Donc du coup, ben, on est perdant de tous les côtés. De toute façon, ça fait des années qu'on nous méprise, qu'on démantèle l'hôpital public. Ça fait des années que les médecins, les infirmiers, les hospitaliers que de toute façon, il y a un moment, il va arriver un drame et qu'il faut arrêter. Et puis bah, aujourd'hui, on est en crise et on voit que le système de santé est défaillant. Et puis on nous dit que c'est bien, il faut aller au front, qu'on est des héros. Et non, on n'est pas des héros en fait. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est être reconnu depuis des années. Et puis c'est surtout qu'on se bat pour l'hôpital public et encore plus aujourd'hui.
Oui, c'est ça, c'est que vous ne demandez pas des médailles, mais plutôt des moyens, quoi.
Des moyens, tout à fait. On demande des moyens. Et puis là, je pense qu'on est au-delà des moyens. On demande des moyens pour soigner. On demande la réouverture des lits d'hospitalisation. On demande des moyens humains, mais on demande aussi une revalorisation. Il y a un moment, je prends l'exemple des infirmiers parce que je suis infirmière, mais ça s'applique aussi aux autres métiers. Hein. Les infirmiers, on fait partie des pays les moins payés d'Europe, quoi. Donc, Il y a un moment, un pays comme la France, avec le système de santé qu'on a, il y a une incohérence qui est assez grande quand même.
Vous vous sentez visé quand le gouvernement fait de belles annonces, de futurs grands moyens annoncés pour l'hôpital public. Donc, on sait que c'est que des promesses, mais est-ce que vous avez un peu écho de votre côté sur des parties qui pourraient vous concerner ou pas tellement?
Comme tu dis, c'est que des promesses.
Ouais.
On a un peu de mal à y croire. Enfin, ça fait des années hein, que les gouvernements successifs nous ont fait des promesses et qu'on n'a rien vu, et encore moins en psychiatrie. Là, j'ai un peu de mal à y croire. Et c'est toujours beau de faire des promesses quand on est en situation de crise et qu'on a besoin que les gens soient sur le terrain pour essayer de les faire tenir. En tout cas, nous, on lâchera pas. Et je pense que le message qui est hyper important à faire passer, c'est que là, aujourd'hui, on est sur le terrain et on y restera. Et voilà, c'est le métier qu'on a choisi. Et on le fera coûte que coûte, il n'y a aucun problème. Mais il faut que demain, quand la crise sera passée, que les gens se rendent compte que l'hôpital va mal et que c'est à ce moment-là qu'il faudra être avec nous dans les rues. Et on est toujours perdant de toute façon en psychiatrie. J'espère que ce plan nous concernera, mais pour le moment, j'y crois pas trop. Et puis, on a aussi la peur de, là, avec ce plan blanc, on est en train de donner un peu des moyens quand même. Hein. Ils débloquent des fonds et tout ça. Mais ces fonds, est-ce qu'à un moment, ils vont nous être réclamés par la suite? Est-ce qu'on va nous demander encore de faire plus d'économies?
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est épuisé.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voudrait gueuler.
On n'est pas des héros. Macron aligne donc les euros. On n'est pas des héros. Faut pas croire ce que disent les journaux. On n'est pas des héros.
Au niveau des urgences, pour l'instant, vous voyez un impact sur la santé un peu psychique des personnes. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent par rapport au fait de se sentir mal par rapport au confinement ou quoi? Tu parlais toi des patients qui pouvaient être en rechute, que vous avez dû sortir un peu tôt de l'hôpital tout à l'heure. Est-ce que là, vous voyez de nouvelles personnes qui vous n'avez pas l'habitude de voir?
Alors on a pas mal de gens qui appellent déjà, parce qu'on a du coup une régulation téléphonique qui est un peu comme sur le même système que le SAMU, hein. Voilà, qui sont très angoissés, que ce soit des patients, on va dire, habituels et connus de l'hôpital ou des gens qui sont juste très angoissés, alors pour eux ou pour leurs proches. Après, au niveau du flux de patients, jusqu'à la fin de semaine, là, on va dire qu'on était sur une période plutôt calme du fait que les gens respectaient plutôt bien le confinement, que les patients étaient très angoissés, donc restaient chez eux. Ça nous a permis de mettre les choses en place. Après, comme je le disais tout à l'heure, on craint vraiment pour les semaines à venir, parce qu'on va vraiment avoir ce double vague et on va forcément avoir des gens qu'on n'a jamais vus sur des choses peut-être traumatiques, sur des gens qui étaient un peu fragiles, mais qui n'avaient jamais côtoyé l'hôpital psychiatrique, mais qui là, du coup, au vu de la crise, vont être de plus en plus fragiles et vont être obligés de consulter un médecin. Au vu peut-être de choses un peu qu'on appelle post-traumatiques, hein, des gens qui ont vu peut-être des choses pas évidentes dans leur famille et qui vont devoir consulter. Donc c'est vrai, voilà. Donc il y a eu toutes ces choses-là. Après nous sur l'hôpital, là il y a une cellule de communication qui est en train de se mettre en place. En fait, ça va être une plateforme téléphonique, justement pour les gens à l'extérieur pour pouvoir avoir des conseils téléphoniques. Et puis nous, on a aussi notre direction qui a mis en place une plateforme téléphonique pour les personnels de santé. Du coup, pour que nous, on puisse aussi être écoutés et avoir de l'aide si on en a besoin.
Si des gens se sentent pas bien ou si des gens se soucient de personnes qui se sentent pas bien, c'est quoi un peu les réflexes à adopter ou vers qui se tourner?
Les gens qui connaissent un peu les urgences du Vénatier ont tendance à appeler directement aux urgences parce qu'ils savent qu'on va les orienter. C'est vrai que cette plateforme, elle va un peu nous soulager parce que là, on est un peu débordé aussi parce que toute la psychiatrie a été redirigée vers les urgences du Vénatier. Donc, on va avoir certainement un afflux de patients qu'on n'a pas l'habitude d'avoir.
Mm-hmm.
Après, les réflexes à adopter, j'ai envie de dire, pour des gens qui sont suivis, c'est de reprendre contact directement avec leur médecin pour voir un petit peu s'il ne faut pas adapter la prise en charge et le traitement pour les semaines à venir. Pour les gens qui ne seraient pas suivis, après c'est soit on est dans quelque chose d'assez urgent, des gens qui ont eu des tendances suicidaires ou des grosses angoisses, et à ce moment-là il faut venir consulter aux urgences, hein, on reste ouvert.
Et du coup les urgences, c'est que on est d'accord sur Lyon et l'agglomération, c'est que au Vinatier. Les urgences
psy. Tout ce qui est psy, oui, c'est au Vinatier. Oui.
Les urgences, c'est un accueil inconditionnel, ça veut dire que si par exemple des personnes n'ont pas de carte vitale, pas de CMU, pas de papier, est-ce que les personnes peuvent quand même se rendre aux urgences?
C'est le principe des urgences publiques, hein, mais au Vinatier, du coup, on est public. Effectivement, on accueille tout le monde avec, sans papier, même des fois des gens qui sont complètement perdus, qui sont pas capables de nous donner leur identité, bien évidemment, on accueille tout le monde. Ouais.
C'est un signal d'alarme. On ne veut plus de larmes, on veut
que le gouvernement nous donne de vrais moyens. Aujourd'hui on crève et ça ne vous fait rien. Pas de minute d'hommage. Notre collègue est parti trop tôt. Pour mourir célèbre, faut pas être infirmier. Président Macron vient donc faire mon métier. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est épuisé.
C'est pour ça qu'aujourd'hui on voudrait gueuler.
On n'est pas des héros. Macron aligne donc les euros. On n'est pas des héros. Faut pas croire ce que disent les journaux. On n'est pas des héros.
Contagiosité.
Comorbidité.
Respirateur.
Symptômes. Charge virale. Chloroquine.
C'est quoi l'épidémiologie?
Patient. Patiente. Guérison. Coronavirus.
Chronique de la toubibe de Canu.
Et salut, salut! Alors, aujourd'hui, sur Mediapart, on peut lire le premier rapport commandé par Macron concernant les futures réformes autour de l'organisation du système de santé. Ce rapport s'intitule « Première proposition post-Covid-19 dans le domaine de la santé ». Et c'est donc, a priori, un document sur lequel le gouvernement de gros connards va s'appuyer pour faire des propositions politiques, en termes notamment de l'avenir des hôpitaux publics, leur financement et tout et tout. Alors, rapport, écrit donc par Adelph de Taxi de Pouette. Si, si, c'est vrai, c'est pour ça que je le cite, ça donne une idée d'où il vient le bonhomme, et que même en blague sur le nom des bourgeois, on n'y penserait pas à Adelph de Taxi de Pouette. Du coup, il y a lui et son camarade Pierre Menet. Donc, ces deux experts écrivent au nom de la Caisse des dépôts. Du coup, c'est à eux qu'a été demandé le rapport, que Macron a demandé d'écrire ce rapport. Du coup, petite précision sur ce que c'est la Caisse des dépôts. Définition lue sur leur site. La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Un peu mystérieux, mais on a quand même l'idée d'un groupe public avec des filiales. Et une de ses filiales, au hasard comme ça, c'est ICAD Santé. ICAD Santé, groupe qui fait de la spéculation immobilière dans le domaine des cliniques privées. Et ouais, donc c'est ce groupe-là que l'État a choisi pour affiner ses premières lignes politiques en matière de politique de santé. Alors... qu'est-ce qui raconte ce rapport? Parce que c'est tout à fait intéressant. Alors, ce rapport, il fait 5 pages, et je redis, il est trouvable sur Mediapart, avec toute une analyse super bien foutue sur ce que ça raconte. Alors, est-ce que la première proposition, c'est des sous, et encore des sous pour les hôpitaux? Eh ben non, pas du tout. Ça va pas la tête, hein. Le problème de l'hôpital, le rapport le réaffirme bien dans le premier paragraphe, c'est pas qu'on lui donne plus de sous depuis des années, mais c'est juste que c'est pas bien géré. Et ouais, le point 1 s'appelle donc officiellement dans ce rapport « Accompagner l'investissement et contribuer à la pertinence de la gestion ». Donc, allez bien vous faire foutre toutes celles et ceux qui dénoncent les politiques d'austérité sur le financement des hôpitaux depuis des années, puisque dans ce rapport, il n'y a pas une ligne sur des consignes d'augmentation du budget de l'hôpital au niveau national. Pas une, zéro, à rien du tout. Ça parle de créer des fonds et des lignes de prêt spécifiques, ce qui renvoie donc à des systèmes bancaires privés et des emprunts, mais ça n'implique pas une augmentation stable du budget national public pour la santé. Bref, le point 1 de ces rapports, c'est « il n'y aura pas plus de thunes ». Ça commence bien, c'est sûr, et vous allez voir, ça continue de mieux en mieux. Donc, le deuxième gros point de ce rapport, qu'est-ce que c'est ? Alors, on peut faire un petit jeu. Est-ce que la première proposition serait disparition de délire type « l'hôpital est une entreprise comme une autre » ou les conneries type « pour bien soigner les gens, il nous faudrait surtout plein de managers et beaucoup moins de soignants, s'il vous plaît » ou « continuer à demander plein de protocoles évaluatifs débiles pour avoir le moins de temps possible pour parler avec les malades ». Donc ça serait une espèce d'ensemble de premières propositions qui auraient pu être faites, d'arrêter un petit peu tout ça. Ou alors, deuxième proposition, implanter par différentes mesures plus fortement le privé à l'hôpital. Et bah oui, c'est ça, c'est la deuxième proposition qui gagne et qui est donc affirmée de différentes façons dans l'ensemble du rapport. Les propositions sont donc claires et visent donc à privatiser un petit peu plus l'hôpital, puisque un des gros points qui est développé, c'est de maintenir et de renforcer les partenariats publics-privés au maximum. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire inciter les hostos à déléguer certaines activités vers des cliniques privées, et c'est souvent celles qui rapportent le plus, comme certaines chirurgies. Donc, le partenariat public-privé, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis des années, et c'est aussi très bien connu pour avoir contribué à l'endettement des hostos de toutes ces dernières années. Et surtout, ce que ça fait, puisque l'hôpital public va déléguer certaines activités de soins, en fonction de leur rentabilité, ça ancre le privé dans le système de soins, et ça le rend indispensable, puisqu'il y a certaines tâches que l'hôpital public n'assume plus. Donc ça, c'est notre gros point dans la réforme proposée. Toujours dans comment mettre encore un petit peu plus de privé dans l'hôpital, hein, puisque a priori, on a bien vu, c'est ça qui marche bien. Développement des hôtels hospitaliers. Alors ça, c'est pas si original que ça, hein, c'est des trucs pareils qui sont... Qui tentent de mettre en place depuis un petit bout de temps. Du coup, ça serait des hôtels hospitaliers qui seraient gérés éventuellement par des grands groupes. Hôtels privés, du coup, par exemple, pour les proches, mais aussi pour les gens pas trop malades, mais qui sont à l'hôpital, mais que quand il y a une surcharge à l'hôpital, bah, y aurait ces hôtels où les gens un petit peu moins malades pourraient y aller. Du coup, on imagine hein, des hôtels payants, pris plus ou moins en charge selon sa mutuelle, son assurance santé, etc., et hôtels qui vont générer des bénéfices pour des grands groupes cotés en bourse. Toujours sur le versant implantation du privé, de nouveau. Et pareil, c'est pas du tout nouveau comme discours chez les dirigeants, insistant sur le nécessaire développement de la e-médecine, c'est-à-dire les technologies au service de la santé. Alors, hein, ça, déjà, de une, bah, ça ancre bien l'idée médecine-machine, médecine-technique, ça veut dire médecine qu'on peut quantifier, qu'on peut évaluer, donc médecine bien fiable, parce que convertie en chiffres et en valeurs. Du coup, on imagine hein, une idéologie qui marche très très bien avec le système capitaliste et néolibéral, du coup, une médecine qui plaît et qu'on a envie de promouvoir. Ça casse, hein, du coup, forcément, l'idée, la nécessité que le soin, bah, c'est des gens, des humains, c'est du temps, c'est des mots, c'est des gestes. Bref, dans le rapport, il n'y a pas un mot sur plus de moyens humains qui seraient mis en avant, pas de discours sur les conditions de travail des personnes qui bossent à l'intérieur de l'hôpital, ou tout simplement un petit mot pour les personnes malades aussi, par exemple, mais une insistance sur le développement de plus de logiciels à tous les étages. Mais aussi, ce que ça veut dire, plus de logiciels, c'est que c'est bien connu pour bien soutenir l'innovation numérique nécessaire à la multiplicité de super logiciels médicaux, c'est tenu par la multiplication et la mise en concurrence de start-up, donc de micro-entreprises privées. Donc ça veut dire qu'il y a une proposition qui est de plus en plus de tout type de logiciel géré à chaque fois par sa propre start-up et que ça soit pareil partie prenante de l'hôpital public, du coup de bien venir refaire un petit coup de patte de privé à l'intérieur. Voilà, donc ça c'était le bloc privatisons un petit peu plus l'hôpital public. Alors, dans la dernière proposition là, du rapport que je vais développer, c'est vraiment pas la plus petite, et je vous jure, c'est absolument pas un poisson d'avril. Du coup, c'est le point qui en gros est le plus développé, et c'est accrochez-vous bien pour sauver donc l'hôpital public, et que tout le monde ait accès aux soins de santé, c'est grosse proposition, attention, c'est la construction de gros navires hôpitaux. Et oui, c'est carrément badass. Ouais. Et je redis, c'est pas une blague, et aussi c'est carrément écrit noir sur blanc. Du coup, je vais vous lire la petite note qui raconte ça. Donc, citation du rapport. Il s'agirait donc de conventionner avec des armateurs français la transformation à la demande d'un paquebot, d'un roulier, d'un ferry en navire hôpital en contrepartie d'une rémunération fondée sur la disponibilité et des entraînements. Une annonce de cette nature serait sans doute très bien reçue par l'opinion publique et recevrait le soutien des armateurs de France très attachés au concept de flotte stratégique et à la croissance des navires sous pavillon français. Voilà, fin de la citation. Donc, en plus de dire que c'est vraiment, mais vraiment complètement con comme proposition, c'est aussi en vrai très inquiétant, hein, parce que c'est qui gère le gros bateau ? Bah, c'est la Marine nationale, c'est l'armée. C'est donc une bonne manière, là, bien grandiose, de réaffirmer des valeurs militaires au service de la santé de toutes et tous. Craignos. Bon. Et évidemment, aussi à ajouter que derrière cette proposition-là, quand même, des gros bateaux, il y a aussi du conflit d'intérêts, puisque les armateurs de France, qui seraient du coup les bénéficiaires là, des gros chantiers, sont a priori en galère là, sur des gros contrats qu'ils avaient et qu'ils ne peuvent pas honorer, et qu'il se trouve que la Caisse des dépôts, hein, pour rappel, qui est du coup la structure qui a produit là le rapport, est plus ou moins en lointain mariage financier avec les fameux armateurs de France. Bref, du coup, leur offrir des gros contrats, ça les sortirait de la merde et ça aurait un ricochet positif sur la Caisse des dépôts. Voilà, du coup, en résumé, surtout pas plus de thunes, ni de moyens, ni de réflexion sur les conditions de travail pour l'hôpital, plus de privatisation. On renforce la logique technologique. Et on fait des énormes gros bateaux dégueulasses. Voilà, du coup, bah c'est le premier rapport hein, que produit du coup l'État français là, en réponse à ce qui se passe en ce moment. C'est super chouettos. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller lire tout ça, là, pour dire, c'est sur Mediapart, il y a les articles, des citations de gens qui analysent le truc, tout ça, machin. Mais quand même aussi, on peut finir sur des bonnes nouvelles. Du coup, il y a une étude multilongitudinale à double entrée en randomisé triple aveugle qui a été réalisée dans le monde entier sur plus de 144 millions de malades. Et il a été prouvé qu'être trans-PD et ou Gwyn était un facteur protecteur finalement et que tous ceux qui se convertissent avec sincérité avait meilleure chance de guérison. Voilà, du coup ça c'est plutôt l'information plutôt intéressante au niveau scientifique là, qu'on voulait retransmettre. Et voilà, dernières infos qui viennent de tomber, là, des camarades qui gèrent les énormes hôpitaux autogérés, là. Du coup, après concertation, là, lors des dernières assemblées générales, soignants, malades et tous ceux qui veulent, il a été décidé, donc, que le tri en réanimation, qui est appelé communément pas de flic ni de patron dans nos tuyaux, serait a priori en place dès demain, du coup, dans les hôpitaux autogérés des camarades. Voilà. Eh bien, gros bisous et à bientôt.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
C'est un sujet sur lequel on se fait pas mal de soucis depuis le début du confinement.
C'est vrai, on en a parlé dès les premiers jours et on se trompait pas puisque Christophe Castaner nous a annoncé qu'en une semaine, le nombre de signalements de violences familiales des mecs qui tapent sur leurs femmes ou sur leurs enfants avait augmenté de 32%. Voilà, les gens quand ils sont enfermés ensemble qu'ils sont enfermés avec un mec violent, assez mathématiquement, c'est l'enfer. Alors le gouvernement, lui, prend la mesure du phénomène et il prend des mesures en conséquence, tout en restant dans sa ligne, ma foi, sa ligne classique. On se souvient peut-être, enfin bon, si on a bonne mémoire, parce que quand même c'était assez anecdotique déjà à l'époque, il y a quelques mois, avait eu lieu un grand Grenelle des violences faites aux femmes. Tout le monde avait paradé, tout le monde avait dit son mot, Marlène Schiappa avait parlé, bla bla, oula, comme ça, oula, déjà à l'époque, les violences machistes, c'était très très bien pris au sérieux. Bon, très bien, mais quand même, quand toutes les associations qui s'occupent du sujet avaient dit que l'essentiel c'était surtout du pognon pour créer des centres d'hébergement pour que les femmes qui se font défoncer la gueule à la maison puissent tout simplement se barrer, alors là, le gouvernement avait dit oui, peut-être, mais enfin quand même non. Aujourd'hui, la situation a changé. On n'a plus trop le droit de sortir dans la rue, de sortir de chez soi. Et bon, en plus, ce droit, selon la tête que vous avez, si vous tombez sur des flics, ça peut assez mal se passer des fois. Enfin, en gros, si vous n'avez pas l'air absolument respectable, calme et bien dans votre peau, on a quand même un paquet d'histoires de gens juste parce qu'ils sont un peu vénères là, pour lesquels ça se passe vraiment pas très bien. L'attestation est peut-être mal remplie en plus. Alors là, oulala. Alors, autant dire que les femmes qui se prennent des nions, avant, elles pouvaient toujours aller voir une copine, et même peut-être un jour, le jour où le processus en arrivait là, peut-être demander à cette copine à se faire réellement héberger et peut-être rester. Bon, maintenant, là, tout de suite, dans la situation, c'est beaucoup plus difficile. Mais heureusement, Castaner, le ministre des flics, a eu une idée géniale. Un mot de code à dire à votre pharmacien. Voilà, c'est pas une blague. Si vous arrivez à la pharmacie et que vous dites « masque 19 », c'est ça le mot de code, hein, notez bien, le pharmacien va comprendre que votre mec vous tape. Alors là, bon, deux possibilités différentes, soit le mec n'est pas là avec vous à la pharmacie et, ma foi, on ne sait pas bien à quoi ça sert d'avoir un mot de code, vous pourriez aller voir le pharmacien, lui dire « mon mec me tape, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ?» Soit votre mec est là, alors là il faut espérer que lui soit pas au courant du code, hein, parce que quand même, comment vous avez été au courant, bah, parce qu'il a été un petit peu dit à la radio, je sais pas quoi, il faut espérer que lui écoute pas la radio, parce que autrement ça sert à rien non plus d'avoir un code, vous auriez aussi bien pu dire au pharmacien « mon mec me tape », ça aurait été pareil. Enfin bon, l'essentiel de la part de Castaner, c'est pas d'avoir l'idée du siècle non plus, on peut pas lui demander n'importe quoi, c'est de participer, il a fait ce qu'il a pu. Ça c'était la semaine dernière. Entre-temps, on a encore beaucoup mieux, oui, oui, beaucoup mieux. Vous allez voir, il aura quand même fallu 15 jours de confinement pour en arriver là. C'est là qu'on voit que c'est une priorité du gouvernement. Hein. On a maintenant un numéro de téléphone, un numéro où vous pouvez envoyer un SMS. Ouf, dites donc, c'est le 114. Notez bien, le 114. Enfin, quand même, si vous vivez avec un mec violent, notez le numéro toujours, mais avant de l'utiliser, réfléchissez-y quand même à deux fois. Parce que si vous l'utilisez, normalement, c'est les flics qui débarquent à la maison. Ça, c'est la promesse. Jusque-là, c'est à peu près clair. Par contre, ce qui se passe après, ça, c'est beaucoup moins clair. Et j'ai eu beau éplucher des articles, c'est vraiment expliqué nulle part. Alors, on imagine que les flics arrivent et puis qu'ils grondent un peu votre mec, quoi. C'est pas bien de taper sa femme, on vous prévient, c'est même interdit par la loi, tout ça. Et puis, bon, une fois qu'ils ont fait ça, les flics, bah, ils vont pas non plus passer la nuit chez vous, hein. Alors, ils s'en vont. Vous, il n'y a toujours pas plus qu'avant de place pour vous héberger ailleurs que chez vous, alors ma foi, bon, bah, vous y restez, hein. Voilà, et ben voilà, le ministre de l'Intérieur, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, tout le monde s'est penché sur votre cas, mais maintenant, à vous, il vous reste quand même un petit boulot à faire vous-même, c'est-à-dire que le tête-à-tête par lequel se finit cette aventure, maintenant, c'est vous qui le gérez.
Canu Info.
Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Un des bons côtés de la guerre, quand au départ on est du côté du manche en tout cas, c'est normalement que tout le monde s'arrête de vous embêter avec des conneries, tout le monde fait bloc derrière son gouvernement contre l'ennemi commun. La guerre, souvent, ça calme pour un temps. En tout cas, les velléités syndicales, les velléités de révolte politique, entre autres, ça avait carrément fonctionné en 14, par exemple. Mais alors là, du côté syndical, on dirait qu'il n'a pas suffi d'une déclaration de guerre répétée en boucle par le président pour endormir toute critique, pour faire passer au second plan tous les problèmes. En fait, des problèmes, il y en a plutôt plus que jamais, et cette guerre-là fait méchamment ressortir la lutte des classes. Alors, la CGT a déposé un préavis de grève pour le service public à partir d'aujourd'hui ce matin et pour tout le mois d'avril. Elle dénonce un manque de protection dans les services publics des agents exposés au risque de contamination au Covid-19. En pleine crise de l'épidémie de coronavirus, l'initiative a été dénigrée par le gouvernement et certains membres de la majorité. Et oui, bah ça, on n'avait pas attendu le virus pour le remarquer. Le gouvernement, ce gouvernement en particulier, se permet de dire quand les gens qui bossent devraient ne pas faire grève. Comme ils ont toujours pas compris que l'esprit des lois, c'est pas vraiment que le président de la République, ça veut dire grand chef de tout et de tout le monde, bah ils continuent à être scandalisés que la CGT leur demande pas l'autorisation à chaque fois. Depuis le début du confinement, les syndicats de la fonction publique demandent des solutions réglementaires claires à l'exécutif. Mais bon, fixer des amendes monstres pour les gens qui sortent de chez eux, ça va, c'est possible, c'est facile. Par contre, faire un petit règlement rapidos pour fixer les conditions dans lesquelles les salariés devraient être protégés, alors ça, pas question. Le gouvernement a vraiment des choses plus importantes à penser. Bon, des conseils, oui, aux employeurs. Mais alors, une contrainte pour les entreprises ou pour les chefs des services publics, alors ça, jamais. Et ceux des services publics qui bossent encore, ça fait quand même un sacré paquet de monde. Les assistants familiaux, les assistantes familiales, les travailleurs sociaux, les travailleurs sociales, les aides à domicile, les agents d'EHPAD, les agents d'entretien, les éboueurs, les employés des pompes funèbres, les agents chargés de garder les enfants des personnels soignants, etc., etc., la liste est longue. Alors, un gars de la CGT nous explique que beaucoup n'ont ni masque, ni gants, ni solution désinfectante. Ils sont contraints de travailler dans des bureaux parfois exigus, ne permettant pas du tout de garantir les distances de sécurité avec leurs collègues ou avec le public. Il y en a d'autres qui sont contraints d'aller travailler alors qu'ils exercent une activité dont on pourrait se poser la question de savoir si elle est vraiment essentielle dans ce contexte. Bon, voilà. Mais pour, par exemple, Olivier Dussopt, le secrétaire d'État en charge de la fonction publique, ce préavis de grève est inopportun. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ne comprend pas ce préavis. Si les conditions de travail sont respectées, ce n'est pas le moment pour les services publics de cesser leur activité, dit-elle. Dans la majorité, certains jugent même ce préavis scandaleux, comme le député du Rhône, Bruno Bonnel. Il peut y avoir des situations complexes, mais elles doivent se gérer au niveau local, développe le député donc Bruno Bonnel toujours, qui est choqué, dit-il, par l'initiative syndicale qui, dit-il toujours, pervertit la grève. Non mais c'est génial quoi. Tous ces gens-là, alors qu'ils sortent quand même pas du tout de chez eux ou chez elles, hein, qui se voient en vidéoconférence pour fixer les obligations des autres, bah tous ces gens-là se permettent donc de nous faire la leçon. C'est un gars de l'AREM qui va nous expliquer qu'est-ce qui pervertit la grève. Incroyable, quoi. Quand on sait que pour lui, de toute façon, la grève, en soi, c'est déjà une perversion, comme d'ailleurs à chaque fois qu'on essaye d'ouvrir notre gueule. Et bah voilà, et bah, sauf que la CGT, finalement, n'écoute pas tant que ça, ne demande pas tant que ça les autorisations du gouvernement, et elle a par ailleurs déposé une plainte hier contre Muriel Pénicaud, devant la Cour de justice de la République pour son inaction en ce qui concerne la protection des salariés de la grande distribution. Il faut quand même préciser qu'un certain nombre de caissières sont déjà mortes du coronavirus depuis le début du confinement. Et enfin, puisque c'est de ça qu'on parle, on va réécouter un message qu'on a reçu sur le répondeur de Canu, et j'en profite pour redire que pendant cette période de confinement, le répondeur de Canu vous est ouvert. 04 78 29 26 00, 04 78 29 26 00. Les messages que vous y laisserez sont diffusés le matin à 10h et des fois aussi le soir.
Le centre de tri de la poste de Villeurbanne, 109 rue du 1er mars 1943, à côté de Grand Clément, est-il infecté par le coronavirus ? Nous avons appris aujourd'hui que deux personnes étaient victimes du coronavirus dans ce centre de la poste, de tri de la poste, et qu'aucune information du personnel n'a été faite à ce jour. Nous essayons d'alerter tous les médias pour qu'ils fassent leur travail de vérification. Pour l'instant, rien n'a été fait. On compte sur vous pour faire circuler cette information et pour pouvoir poser la question aux dirigeants criminels de la Poste. Merci.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info, contre la machine à expulser.
Cynisme ordinaire. En cas de contamination, il privilégie le travail des réfugiés. Le préfet de Seine-et-Marne vient de faire appel lundi 30 mars aux réfugiés en règle pour aller trimer chez les agriculteurs du département confrontés à l'épidémie de coronavirus. Ils assurent que c'est pour soutenir SIC. Et ils assurent que la démarche repose sur le volontariat. Recyc. Bien sûr, c'est évidemment pour combler le manque de main-d'œuvre étrangère dans les exploitations. Je cite « Certains maraîchers du département ne disposent pas de la main-d'œuvre saisonnière étrangère nécessaire et peinent à recruter alors que se profile dans quelques jours le ramassage des fruits et légumes en terre, notamment les fraises et les asperges, et que les légumes qui sont récoltés en juin doivent être plantés dès maintenant. » Des fruits et légumes sont indispensables pour approvisionner les marchés franciliens. Et oui, le capitalisme s'est toujours bien arrangé pour sous-payer les plus précaires. Ils viennent de trouver une nouvelle main-d'œuvre légale au SMIC. Selon le sous-préfet de Seine-et-Marne, je cite, « Depuis une dizaine de jours, 56 réfugiés se sont portés volontaires sur les quelques 400 personnes contactées. Il s'agit d'Afghans, de Soudanais et d'Érythréens qui ont dans les 20 à 26 ans. Ces candidats sont issus, entre autres, des 5 centres provisoires d'hébergement CPH du département. Rappelons-nous, la semaine dernière, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, avait lancé un appel patriotique pour rejoindre la grande armée de l'agriculture française. On en avait parlé. Mais voilà comment le fric sort grand gagnant de la crise sanitaire en cours. Mais attention toutefois, cela n'a rien de nouveau. Il y a un manque de main-d'œuvre puisque des milliers de travailleurs étrangers ne sont pas venus bosser dans les champs français à cause des mesures de confinement. Et pour rappel, chaque année, quelques 8000 saisonniers viennent du Maroc, 3000 de Tunisie et quelques centaines de Turquie, embauchés via des contrats OFI. Donc rien de neuf sous le soleil, juste de nouveaux arrangements.
On va faire un tour du côté de Malte, où des ONG volent au secours de trois jeunes migrants accusés de détournement d'un navire. Alors il y a tout juste un an, on en avait parlé sur cette antenne, un pétrolier porte secours à une centaine de naufragés qui tentaient de traverser la Méditerranée. Voyant le navire prendre la direction de Tripoli, destination que venaient de fuir les exilés, quelques-uns d'entre eux ont décidé de faire pression sur l'équipage pour se diriger vers un port sûr, en l'occurrence Malte. Ce qui s'est passé à bord, c'est qu'un équipage non préparé au sauvetage a dû expliquer à des gens qui viennent de fuir un pays qu'il les ramène justement dans ce pays-là, sur ordre d'un avion militaire européen. Il était alors impensable que les gens restent passifs face à ça. Dans le contexte de l'époque, nombre de navires commerciaux avaient procédé à des secours et ont suivi les consignes données par les gardes-côtes libyens de ramener les personnes en Libye. Un paquet d'autres, dont forcément on parle moins, ont décidé de ne pas suivre ces consignes-là et ont ramené les exilés dans un port sûr. Cette situation avait ajouté du chaos au chaos. On avait pu voir à l'époque des vidéos où des personnes secourues se jetaient à l'eau des navires qui les avaient secourus pour ne pas retourner dans l'enfer libyen. Le navire dont on parle débarquera finalement au port de La Valette à Malte, accompagné de navires militaires. Sitôt débarqué, trois mineurs, âgés de 16, 17 et 20 ans, sont immédiatement arrêtés, suspectés d'être les meneurs. Ils sont accusés de détournement de navire et piraterie. accusation qui relève à Malte d'actes de terrorisme. Dans un communiqué commun, plusieurs associations dont Alarmphone, qui a mis en place un numéro de secours pour coordonner les sauvetages, déclarent que, je cite, « les trois accusés devraient être vus comme des héros. Ils ont empêché que 108 survivants ne soient renvoyés vers des conditions inhumaines en Libye. Aujourd'hui, ces personnes-là risquent la prison à vie. Les associations réclament l'abandon des poursuites et la fin des reconduites vers la Libye. »
Point sur la situation dans les îles grecques et dans le camp de Moria à Lesbos. Nous pouvons parler d'un abandon européen. Des 40 000 personnes réfugiées se trouvant sur les îles grecques, dont 20 000 dans le camp de Moria à Lesbos. Les ONG demandent leur évacuation, mais le gouvernement grec a décidé le lundi 23 mars du confinement des îles. Avant ça, le gouvernement de droite de Mitsotakis a instauré début mars un régime d'exception pour au moins 30 jours. Aucune demande d'asile n'est plus enregistrée, ce qui est en contradiction avec les conventions de Genève et avec le droit européen et international. Les dernières arrivées depuis le 1er mars ne sont plus enregistrées et les gens sont détenus dans des structures ad hoc sans accès à des avocats ou à des ONG. Des mesures strictes pour limiter les allées et venues de migrants vivant dans des camps surpeuplés, mais difficile de se protéger contre l'épidémie du Covid-19, sans maison, sans accès suffisant à l'eau, aux douches ni aux toilettes. Et selon l'ONG Médecins Sans Frontières, à Moria, on ne dénombre qu'un seul robinet pour 1300 personnes, sachant qu'il y a 20 000 personnes. Ils ont commencé à construire elles-mêmes des cliniques de fortune, faute de moyens donnés. Rappelons que la situation semble hors de contrôle depuis la fin du mois de février. Agressions de réfugiés, attaques de responsables d'ONG, destruction de lieux de solidarité, barrages sur les routes, départ des volontaires internationaux et réduction des activités des organisations caritatives, manifestations et contre-manifestations. Et la crise sanitaire du Covid-19 ne peut que renforcer cette montée de sentiments racistes et xénophobes des habitantes de l'île. À Chios ou à Moria, ce ne sont plus des camps, mais des prisons à ciel ouvert, des hotspots dans le jargon des gouvernements européens, et ce sont bien les gouvernements européens qui ont créé cet état de pourrissement dans les îles grecques et qui font en sorte que ces 40 000 personnes stagnent là-bas.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
La plus rebelle des radios.